prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, puissance et violence.
Nous puissions ouvrir un texte, si vous voulez bien suivre avec moi, un texte du livre du prophète Zacharie. Alors, on va ouvrir notre Bible, prophète Zacharie, Zacharie 4, pardon, chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 4. C'est le prophète qui parle. « Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur ? L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis non, non mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel, des armées, et je répète, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. » Voilà, ça va être le sujet de notre méditation, on reviendra peut-être ultérieurement parce que le sujet de l'étude est assez vaste, mais on va commencer par ceci aujourd'hui. On connaît déjà la puissance de la tentation, on en a souvent parlé, mais il est utile d'examiner l'interface, ou l'autre face, si vous aimez mieux, c'est la tentation de la puissance. Je dis bien la tentation de la puissance, particulièrement celle qui est d'ordre spirituel. Alors, des puissances, il y en a tout autour de nous, dans le ciel, sur la terre, parmi les hommes, d'une manière ou d'une autre, et c'est extrêmement varié. Mais j'aimerais que nous situions notre réflexion sur la puissance spirituelle, d'ordre spirituel. Aucun croyant ne douterait que Dieu est un Dieu puissant. D'ailleurs, on le sait dans la Bible, il se manifeste quasiment à chaque page. Il nous est simplement donné ce titre, Dieu tout-puissant, plus de 35 fois dans notre Bible. Mis à part bien d'autres expression qui parle de la puissance de Dieu, Dieu Tout-Puissant. De bien des façons, l'homme cherche passionnément la puissance, l'homme commun. Être puissant, être fort. Est-ce peut-être la nostalgie du jardin d'Éden ? Je ne sais pas si l'homme était puissant, en tous les cas, il était innocent du mal. Alors, il ne pouvait pas connaître ce que nous connaissons aujourd'hui dans cette convoitise de la puissance. L'homme veut être puissant dans son élévation sociale, dans le domaine certainement de ses buts à atteindre, de réalisation, dans le domaine politique. Alors là, c'est très sensible puisque on en entend parler tous les jours. Puissant par la fortune, par la réussite, par le talent. Peut-être ça va vous surprendre, mais puissant par la religion. Une religion puissante. Et on reviendra, parce que je voudrais quand même faire un distinguo entre le fait religieux et être spirituel. C'est deux choses diamétralement opposées. Il est un aspect négligé peut-être, mais des plus dangereux, c'est que les religions s'offrent très très souvent comme des tentatives de s'emparer de la puissance de Dieu. Alors il n'y a pas que les religions chrétiennes. On pourrait parler de l'islam, on pourrait parler de tant d'autres manifestations de ce monde, des mondes religieux. S'emparer de la puissance de Dieu pour les mettre au service des ambitions humaines. Ouais. Et qui peut servir d'un paravent en disant « Regardez comme notre foi ou notre croyance est puissante, donc nous avons Dieu avec nous. » Cette soif de puissance n'est pas fortuite, car elle trahit chez l'individu finalement la conscience de sa faiblesse. Et ça, c'est un subterfuge, en quelque sorte. Ouais. Je veux être puissant parce que je me sens faible. Et vous savez ce que l'apôtre dira, ou ce que Dieu dira à Paul. Eh bien, qui cherchait peut-être, ou plus ou moins en tous les cas, et il lui dira, mais c'est dans ma faiblesse que tu sauras faire. Alors, on va suivre un petit peu ce raisonnement. On va aller un peu plus loin. Être puissant pour désarmer les menaces, les dangers, les périls. Être puissant pour contrer les échecs. La Bible, l'Ancien Testament, apparaît comme le livre de la solution à la question de la puissance. Quand vous lisez ces faits, ces récits, ces textes de l'Ancien Testament, c'est enthousiasmant. Je suis croyant. Dieu est avec moi et il me rend puissant. Imaginez-vous. Mais le Nouveau Testament ne départ pas, puisque nous voyons Jésus nous suggérer dans l'Évangile, mais tout est possible à celui qui croit. Ou encore, eh bien, avec cette foi que tu as, tu es capable de transporter les montagnes. Imaginez-vous, là, il faut être puissant. Hein, de déraciner les sycomores. Et bien d'autres choses. Et ces textes sont là pour nous dire, eh bien, ces choses. Quand on fouille dans l'histoire biblique, on remarque que Dieu est d'abord un Dieu qui offre et déploie sa puissance à qui croit en lui et lui obéit. Et c'est bien, parce que c'est ce que nous prêchons. Eh oui, c'est ce que nous prêchons. Si tu crois en moi, si tu obéis à ma voix, eh bien je ferai de toi un homme, une femme, un homme puissant. Cette suprématie est constante, un Dieu au-dessus de tous les dieux. C'est bien ce que l'Ancien Testament nous dit. Un Dieu qui est plus fort que Baal, qu'Astarté, que toutes les idoles. Un Dieu plus fort que l'Égypte, nous le voyons dans la traversée de la mer Rouge. Un Dieu qui est plus fort que l'Assyrie, que tous les peuples impériaux qui sont autour d'Israël. Dès lors pour les Juifs, dès lors pour le croyant israélite, c'est la course à la puissance, puisqu'il a compris que cette puissance ne venait pas d'en bas, elle venait d'en haut. Et il en a les moyens. Dieu lui a donné le mode d'emploi, en quelque sorte. Alors, c'est la course à devenir puissant. Car avoir Dieu de son côté, et c'est ce que tout chrétien, naturellement, sait et aspire, c'est s'assurer d'être le premier, d'être le plus grand, d'être le meilleur et le plus fort. Alors, on va reprendre les choses. C'est précisément le contraire. Ça, c'est notre pensée qui dit cela. C'est notre façon de voir les choses. Ouais. Avoir Dieu de son côté, c'est s'assurer être le premier, le plus grand, le meilleur et le plus fort. Mais attendez, c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Même lorsqu'il nous investit de dons, de talents, de pouvoirs, de capacités, de facultés et tout ce que voudrait, c'est pas pour être le meilleur. C'est pour que lui soit le meilleur, pour que lui soit le plus grand, pour que lui soit le plus fort. On se souvient de cette parole bien comprise par Jean-Baptiste. lorsqu'il dira ceci, « Il faut qu'ils croissent en parlant de Jésus et que moi, je diminue. » C'est important ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Parce que toute notre vision et toute notre perspective que nous pouvons avoir dans nos églises charismatiques, dans nos églises évangéliques, dans cette mouvance qui est la nôtre, ça a toujours été une conception d'être vraiment les plus forts. Parce que Dieu nous a donné, à cause de la Pentecôte, eh bien, tout un équipement extraordinaire et formidable. Parce que c'est vrai, et on ne va pas le renier. Merci Seigneur. Mais est-ce que c'est pour la gloire des hommes? Est-ce que c'est pour la gloire d'un homme? Est-ce que c'est pour la gloire d'un mouvement? Est-ce que c'est pour la gloire d'une église? C'est pour la gloire de Dieu. Vous vous souvenez cette parole qui ouvre toutes les possibilités, possibilités infinies, quand Dieu dira à Israël, « Si tu me sers, » donc il est question de service là, « Je bénirai ton pain, je bénirai ton eau, je bénirai ceci, je bénirai cela, etc. » Vous avez tout cela dans le livre du Deutéronome. « Si tu me sers, alors Seigneur, je veux te servir. Et parce qu'en te servant, tu vas me rendre puissant. Et tu me béniras. » La prospérité économique d'Israël, sa puissance militaire qui est vue dans certains règnes des rois que nous connaissons, le faste de la religion israélite ont atteint leur apogée, sous les règnes de David et de Salomon. Il y en a eu d'autres, hein, des grands rois en Israël, mais particulièrement David et Salomon. On s'aperçoit que tous les deux étaient de zélés serviteurs du Seigneur. David, Salomon aussi, il a touché les sommets, lui, avant de... Mais c'est peut-être justement le problème. Avant d'eux. Depuis les Juifs, et je dirais même les chrétiens, s'inspirant par exemple de ces textes de l'Ancien Testament, ont voulu prouver, je dis bien prouver, la véracité de leur foi et l'existence de Dieu par le succès et la réussite. Et ça peut devenir terrible. On a entrepris une réflexion depuis quelques jours ici dans cette église où tout simplement, eh bien, nous entendons les chrétiens dire « Ah bah oui, mais il n'y a pas grand monde dans l'église, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, etc., etc., etc. » C'est un fait peut-être. Et nous en sommes les premiers peut-être parfois à être attristés de tout cela. Mais je pense que, attention, c'est Dieu qui est le responsable de l'église, c'est pas moi. C'est Dieu qui est le directeur, hein. Christ est le directeur, il nous est dit dans l'évangile, Matthieu chapitre 23. Et je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce travers de raisonnement qui nous amène à dire, eh bien parce que nous avons du succès dans une communauté, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, bien sûr qu'il y a des conversions, des baptêmes, etc., mais nous le disons tous, et nous en souffrons qu'il n'y en ait pas. Mais, à côté de ça, je pense qu'il faut être très très prudent de dire, eh bien voilà, nous sommes une église bénie, parce qu'il y a du succès, parce qu'il y a de la réussite, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Moi, je voudrais simplement vous dire qu'il ne faut pas en tirer cette déduction simpliste et réductrice qu'être puissant, c'est être spirituel. Non. Non. Et trois fois non. Prouver Dieu par le succès et la puissance, voilà le premier danger. On est tous convaincus dans notre engagement et notre engagement ensemble dans une vision positive des choses où nous ne regardons pas à autre chose qu'à Jésus. Nous sommes convaincus que le Seigneur est capable de faire encore aujourd'hui des miracles, des prodiges, d'amener des hommes, des femmes, d'amener des gens avec des conversions extraordinaires. Mais ce n'est pas nous qui allons le faire. Et attention à la récupération que nous pouvons en tirer. Parce que très souvent, lorsque Israël est monté très haut, il est descendu aussi très bas. Alors, il faut se méfier de cela. Je prends l'exemple de l'Église. L'Église des siècles, l'Église chrétienne, a depuis longtemps fait la preuve que derrière une bonne conscience, souvent dans ses ingérences avec le monde, je parle ingérence à tout niveau, à travers une bonne conscience, ses victoires, ses miracles et ses réveils, cette même Église a bâti sa puissance. On sait ce qui s'est passé dans ce basculement qu'il y a eu au IIIe siècle avec le changement de régime de l'Église chrétienne persécutée qui est devenue sous le règne de Constantin l'Église persécutrice. Oui. Alors, on sait très bien que tout cela, l'Église a bâti sa puissance, une puissance autoritaire, arbitraire, sur des injustices et a donné raison à ses actions en violant la loi de Dieu et la volonté de Dieu. Seigneur, bénis-nous, mais garde-nous de l'orgueil. Garde-nous de tomber dans les travers de la suffisance. C'est ce qui se passait pour les pharisiens. Les pharisiens avaient leur actif 3-4 siècles d'existence depuis le retour de l'exil, et ils avaient la main mise sur tout. Toute la vie d'Israël était sous le contrôle des pharisiens. Mais vous avez vu comment Jésus les a traités? Ou alors il leur a dit des mots, hein, que j'oserais pas répéter aujourd'hui, hein. Ouais. Alors, je dis pourquoi cette permission? Pourquoi Dieu permet-il cela? Parce que je crois, l'Église est devenue de plus en plus puissante, donc dominante. Et à partir du moment où nous commençons à prendre conscience d'une certaine puissance, des dons, des talents, des capacités, des facultés que Dieu nous a données, vous savez, l'homme reste l'homme, hein. Il n'y a aucun danger du côté du Seigneur, hein. Mais de notre côté, tout est danger. À partir du moment où vous avez des hommes qui vont s'élever avec des charismes, qui vont avoir quelque chose qui va les distinguer, on va dire, mais ce sont des hommes de Dieu. Bien sûr que ce sont des hommes de Dieu. Mais ce sont des hommes aussi. Ce sont des hommes aussi. Et nous nous apercevons que, à ce moment-là, eh bien, cette condition va amener comme une domination. Et on va dominer, les pharisiens dominer sur Israël. L'Église chrétienne à travers les siècles ont dominé sur des hommes et des femmes par millions et par millions, les privant de la vérité et de la révélation de Jésus-Christ en plus. Altérant le message simple de l'Évangile, les privant du salut, on pourrait le dire. Et je pense que ça vaut pour nous, je ne suis pas en train de faire un cours d'histoire ce matin, mais ça vaut pour nous parce que nous voyons que les choses peuvent aller aussi dans ce domaine-là, dans le monde évangélique. Et faisons attention parce qu'il y a aussi ces dangers. Ils sont là. Et si les choses ont été écrites, c'est pour notre instruction. Vous le savez, c'est Paul qui le dit dans Romains. Sous le couvert de Dieu et de sa puissance, le monde religieux, et je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure à dessein, le monde religieux est non spirituel, parce qu'on peut être religieux sans être spirituel. Maintenant, quand on est spirituel, on est rarement religieux. Vous voyez les différences? Parce que ça ne va pas ensemble. Alors, ce monde religieux est devenu assez puissant pour oser s'affirmer parfois avec violence. Et l'Église s'est signifiée, s'est manifestée à travers des intolérances, à travers l'arbitraire, à travers le sectarisme, et puis bien d'autres choses. Et plus il a voulu dominer, plus il s'est livré à la violence pour s'imposer. Pour s'imposer. On est loin de Jésus et de la manière dont il a passé au milieu des hommes sans briser le roseau qui courbe et sans éteindre le lumignon qui fume. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la différence. Sans la différence. plus on est fort, plus on se permet des choses défendues, des choses interdites, parce qu'on se sent fort. Vous savez, un fort, plus il a conscience de sa force, plus il va faire des choses qui vont aller dans ce sens. Et un faible, lui, c'est exactement le contraire. Il se sent fragile, il se sent faible, et il va se sentir de plus en plus diminué. Et c'est sûr que ses possibilités seront certainement assez restreintes. La puissance confère aux mauvaises actions l'impunité. Ah oui, puisque, qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez l'autorité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a personne au-dessus qui vous dira, mais il ne faut pas le faire. Et on se permet des choses. L'Église se permet des choses. Dans ses institutions. Dans ses directions. Et c'est souvent par la puissance, par ce pouvoir, qu'on innocente le péché. On se dit, mais non, c'est pas péché. On a déclaré que c'était pas péché. Et ça devient d'une grande gravité parce que derrière, il y a l'orgueil, il y a l'ambition, l'orgueil et l'ambition démesurée. Là où un faible sera puni, le fort échappera, parce qu'il y aura des exceptions. C'est vrai ce que je suis en train de dire, même en politique. Hein. Même dans la vie des entreprises. En tout, hein. Mais il faut savoir où se situe la volonté de Dieu dans tout ça. Qu'est-ce qu'en pense le Seigneur? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Et il faut se recadrer à un moment ou à un autre. Je donne cette pensée que vous connaissez tous. Au Moyen-Âge, qui aurait eu l'audace de défier les papes de la chrétienté? Qui aurait pu? Il y avait que les rois qui pouvaient le faire, et encore ils étaient liquidés à un moment ou à un autre. Qui, au cœur du XXe siècle, en pleine folie et dérive du nazisme, qui aurait pu s'opposer à l'hitlérisme et à Hitler? Parce que tous les pouvoirs étaient concentrés, parce que tous les pouvoirs étaient là. Ça, ce sont des choses politiques, naturellement, au risque de sa vie. L'on a compris, il existe une bonne et une mauvaise puissance. Tout dépend, et ça c'est important, écoutez bien la suite, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Tout est là, hein? Parce que les abus de pouvoir, ça existe. Dans le monde séculier, mais ça existe aussi dans le monde de l'Église, dans le monde des chrétiens, l'abus de pouvoir. Et on peut faire beaucoup de mal avec l'abus de pouvoir. Un pasteur aussi, oui, j'entends ça là-bas, oui. Oui. Il y a des échos, hein. Même avant que je parle. C'est bien. Ah oui. Oui, même les pasteurs aussi. Vous savez, je voudrais quand même vous le redire. Hein. Un pasteur est un homme, il n'a rien de plus que les autres. Ça, je voudrais quand même vous le dire, que vous soyez convaincus de cela. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ma conception. Il est parmi les frères, au milieu des frères, pour servir les frères, tout simplement. Je dis pas ça pour faire de la publicité, hein. Pas du tout, hein. Mais ça doit être la réalité, hein. Parce qu'il faut arrêter avec les titres, les fonctions, etc., etc. Vous savez, les comptes, hein, c'est pas auprès de vous, hein, qu'on les aura à rendre, hein. C'est auprès du Seigneur. Et l'Église vivante de Jésus-Christ, elle doit être faite avec des hommes et des femmes qui sont humbles de cœur. Il n'y en a pas un au-dessus qui est au-dessus de l'autre. Il y a des fonctions différentes, c'est vrai. Mais attention, hein. Moi, je crois qu'il faut... Mon pasteur me disait toujours, hein, il faut faire les choses au sérieux sans se prendre au sérieux. Eh oui, non, mais c'est vrai. Et dès que vous avez quand même les chevilles qui commencent à monter au niveau des oreilles, alors là, ça devient grave, hein. Là, vous êtes télescopique, hein. La puissance que Dieu confère aux hommes est faite pour servir et glorifier le Seigneur, mes frères et sœurs. Elle est faite pour lui, pas pour nous, non pour les hommes. Cela explique que Dieu, parce que Dieu est sage, cela explique que Dieu la dispense. faut le reconnaître, et c'est peut-être là la question que nous posions tout à l'heure, que Dieu la dispense si peu même entre les mains de ses serviteurs, même les plus fidèles. Seigneur, il ne se passe plus rien dans nos églises. Il ne se passe plus rien dans notre mouvement. Mais le Seigneur pourrait nous répondre d'une manière très simple, dis donc. Qu'est-ce que tu as fait de tout cela? Quelle utilisation en as-tu fait? Oh, bien sûr, avec tout ça, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, il y a eu des conversions, il y a eu des choses magnifiques. Mais toi, qu'est-ce que tu en as fait après de tout ça? Qu'est-ce que tu en as fait? Béni soit le Seigneur quand il y a des conversions, quand il y a sous l'action puissante de l'Esprit de Dieu, mais après, on se dit, ah bah oui, vous savez, chez nous, hein, il se passe telle chose. Et vous savez, chez nous, on a fait 80 baptêmes dans le mois. À Saint-Nazaire, moi je veux bien, au contraire. Hein. Moi je suis d'accord. Hein. On a fait ceci, on a fait cela, et ceci. Mais on a fait, c'est pas le Seigneur qui a fait. C'est ça le problème. Parce qu'on a vite fait à s'approprier le mérite de tout cela, et on oublie le Seigneur. Alors on comprend que le Seigneur dit au bout d'un certain temps, il y a des temps de réveil, c'est fluctuant, vous savez, dans le christianisme, c'est ondulatoire. Il y a des hauts et des bas, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Il y a des pentes et des côtes. Ben oui, mais c'est une fluctuation de la vie, hein. Et dans notre vie, c'est pas comme ça? Eh bien, c'est la même chose, il y a des hauts et des bas. C'est pas linéaire. Et il y a des moments de réveil. Regardez l'histoire d'Israël, il y avait des temps de... Il y avait des sommets et il y avait des abîmes aussi. C'est pas pour ça qu'il faut aller vers l'abîme. Mais néanmoins, c'est que si ça va en haut ou en bas, c'est parce que quelquefois, il y a des défauts chez nous. Et il y a des défauts souvent d'orgueil. Problème, le péché d'orgueil. Dans Deutéronome, au chapitre 8 et au verset 17, écoutez. « Garde-toi, c'est Dieu qui dit ça à Israël, garde-toi de dire dans ton cœur « ma force et ma puissance » ou « ma force et la puissance de ma main m'ont acquis toutes ces choses. » Vous connaissez le texte? C'est dans la Bible ou pas? Mais bien sûr que c'est dans la Bible. Garde-toi de dire en ton cœur. C'est même pas que tu vas le dire aux autres, tu vas finir par le dire aux autres, mais au départ, tu vas te le dire à toi-même en disant « ah ouais ». Quand même, je suis vraiment un bon pasteur. Je suis vraiment quelqu'un de formidable. Vous vous rendez compte? Tout le monde devrait m'aimer. Ben oui. Notre église, elle est quand même la meilleure de tout le quartier, de tous les environs. Sur toute la côte. Entre le Portugal et puis la Finlande, là-bas, il n'y a que nous. Non, mais... Le danger, il est là, frères et sœurs. Cette semaine, on a parlé de Jean-Baptiste et d'Élie, pour ceux qui étaient là. Et vous savez que le père de Jean-Baptiste, avant que l'enfant naisse, il avait reçu cette promesse, cette prophétie. Il est dit de Jean-Baptiste, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Eh bien, ils avaient deux ministères qui se ressemblaient, mais il y en a un qui a fait des grands miracles, et l'autre pas un seul. Et pourtant, il est dit, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Vous savez, ne regardons pas au don, regardons au fruit. De toute façon, tous les deux avaient des fruits. Il y en a un qui est monté dans un char de feu au ciel, et l'autre, on lui a coupé la tête. Quelle fin différente! Et pourtant, c'était les serviteurs de Dieu. Et pourtant, des hommes puissants. Avec une autorité, Jean-Baptiste, pour prêcher à des foules, parce qu'il y a eu des milliers et des milliers de gens qui ont été à son baptême dans le Jourdain. Mais il n'y a eu aucun miracle. Et si vous regardez quelqu'un, et si vous jugez un serviteur de Dieu en raison des miracles qu'il fait, alors moi j'aurais vous dire, vous vous trompez littéralement, parce que ce n'est pas là-dessus qu'on doit juger. Un homme formidable, il fait des miracles, il fait des choses comme ça, ce n'est pas là-dessus que Dieu juge. Non. C'est à sa fidélité. Et vous savez, c'est plus difficile de vivre quand il n'y a pas de miracle, quand on traverse le désert dans une église, que de vivre où il y a, dans une église où il n'y a que des miracles et tout ça. Parce que là, c'est l'exaltation, c'est l'effervescence, c'est tout ce que vous voulez. C'est formidable de vivre sa foi comme ça. Mais quand vous êtes à ramer, et que vous ne voyez personne, que vous faites des prospections, que vous faites tout ce que vous voulez, vous ouvrez les portes pour qu'il y ait des réunions d'évangélisation, des missions, vous faites venir tout ce que vous voulez, et qu'il n'y a personne, ben je peux vous dire que là, c'est là où il faut tenir le coup. Tenir le coup quand vous avez les torrents, les fleuves du ciel qui descendent au milieu de vous, c'est pas difficile. On peut chanter Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure. Hein. Mais quand vous êtes là, dans le désert, avec une église, hein, où vraiment vous sentez que la ville est réfractaire, que c'est difficile de gagner des âmes, vous pleurez, vous priez, et vous faites tout ce que vous pouvez, et que finalement rien ne vient, ouais. C'est l'église de Philadelphia, dans le livre de l'Apocalypse, Dieu dira à cette église, parce que tu as peu de puissance, eh bien moi je te bénis. Alors je peux vous dire que maintenant, il faut prier pour qu'on ait vraiment encore moins de puissance. Vous comprenez, il faut tenir un équilibre dans tout ça. Hein. Non, mais il y a des idées reçues, il faut que ça disparaisse parce que c'est Dieu qui dirige tout. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit, merci pour la Pentecôte, merci pour le feu qui descend du ciel et qui guérit les malades, qui fait des choses extraordinaires. Je peux vous dire le contraire parce que je le crois moi-même profondément. Mais on est en train de prendre un enseignement qui nous montre aussi les dangers de l'autre côté. Dieu est puissant. Sa puissance, elle est sainte. Elle est juste. Elle est droite. L'homme est pécheur. Je mets les deux l'un côté de l'autre. L'homme est pécheur et il a tout fait de s'approprier cette puissance divine en la confondant avec la sienne propre. Vous savez que c'est quand même quelque chose, mais dans notre monde, et ça a toujours été dans le monde, les petits livres de distraction pour les enfants, que ce soit Tintin, que ce soit Superman ou des choses comme ça, regardez, on leur apprend déjà à être, et on développe. Puis il y en a d'autres, hein, parce que moi, il y a longtemps que je ne le dis plus, c'est... Hein, Perlin Pimpin, non. Il y a la poudre seulement. Eh oui. On a tendance à prendre ce qui est de Dieu en disant, mais Seigneur, tu te rends compte de ce que tu as fait de moi? Que n'as-tu que tu n'aies reçu, dit Paul. Vous connaissez le texte hein, dans Corinthiens. Eh bien, on n'a rien, le Seigneur nous a pris tel qu'on était, et ce que nous avons, ce n'est pas nous, c'est lui. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Que d'authentiques réveils ont avorté, ouais, ont capoté, on peut le dire. Combien d'hommes de Dieu que nous avons connus, dans certains cas, à la réputation mondiale internationale, ont été envoyés au tapis pour ne pas avoir discerné que la puissance est sacrée et qu'elle ne leur appartient pas. Je dirais quelquefois la limite, c'est même pas eux-mêmes qui sont tombés dans le piège. C'est tous les gens qui étaient autour d'eux. C'est les églises qui étaient autour d'eux. C'est tout le monde qui était là pour essayer de les mettre en évidence, qui avait remarqué qu'ils avaient reçu un don particulier. Et ils ont dit, mais t'es quand même le plus beau, le plus intelligent, le plus extraordinaire. Mais tu es notre Moïse! Tuez notre Josué. Alors quand vous parlez comme ça, vous êtes à peu près sûr que vous allez tuer la personne. Ne me faites pas trop de compliments. Non. Vous pouvez m'en faire un petit peu quand même. Ben, ça va, hein, je plaisante là. Non, mais c'est vrai, il faut. Vous savez, quelquefois, on est vraiment profondément affligé de voir certains comportements. On se dit, mais c'est pas vrai. Surtout quand on fait la comparaison avec la manière, la personne, l'attitude, la vie de Jésus, humble et doux. Parce que quelque part, ce genre de choses vous enlève l'humilité pour vous remplir d'un orgueil spirituel, et quant à la douceur, ça devient parfois même une dictature. Ou une imposition des idées. Oui, je crois que tout cela, c'est important. Regardez Moïse, je prends 3-4 cas. Regardez Moïse, prince d'Égypte, au sang hébreu. Il va terminer sa carrière au palais en tuant un homme. Il était sûr de son fait, il était le prince d'Égypte, il pouvait bien tuer quelqu'un. Regardez Gédéon, qui a commencé tout petit en disant « Mais moi, je suis rien du tout, hein, Seigneur, pourquoi tu m'appelles à faire cette œuvre ?» Et qui, là, à la fin de sa vie, va tomber à cause de tout ce monde spirituel et surnaturel dont il a été l'agent, va tomber dans l'idolâtrie, il va se faire un autel, vous rendez compte, au Baal ou je ne sais plus à quelle idole. Vous rendez compte comment ça lui a tourné la tête? Vous avez David, au summum de sa royauté, qui va tuer Uri. Il s'est pris la tête, le pauvre David. Heureusement, il est revenu. Hein, ce qu'il fallait. Regardez Salomon dans toute sa gloire, qui lui va complètement dérailler, mais alors, à plat ventre, on peut dire. Hein. Terrible. Regardez Élie, après le mont Carmel. Le feu qui descend du ciel. Mais, qu'est-ce que vous voulez, c'est formidable. Seigneur, montre-nous des miracles. On a besoin de voir des miracles. Eh bien, Jésus répondra... Il dira, mais si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Donc, la moralité, c'est que vous en voyez un peu mieux, un peu moins, et que vous croyez à l'invisible, tout simplement. Et quand je parle d'Élie, quelle dépression il a eu après, je peux vous dire. Un homme de la même nature que nous. Ne l'oublions jamais, nous portons, et c'est Paul qui le dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, dans des vases d'argile. Nous sommes argile. Afin que cette grande puissance, celle des évangélistes, celle des pasteurs, celle de ceux qui enseignent la parole d'une manière extraordinaire, et puis tous les autres qui sont appelés des ministères dons, que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dans l'Ancien Testament, cette démonstration de puissance jalonne toute l'histoire juive. À travers des guerres éclairs. Même en 1967. Hein. C'est tout récent. Mais dans toute l'histoire biblique. Des guerres éclairs. Oh, Dieu disperse les ennemis. À travers l'écrasement des adversaires d'Israël. À travers des victoires prodigieuses, des miracles étonnants. Et fait des Hébreux un peuple, et écoutez bien le mot, fait des Hébreux un peuple exalté. Ils n'ont pas tort d'être exaltés. Ils ont leur grand Dieu avec eux. Un Dieu redoutable, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui domine le ciel et la terre. Ils sont exaltés. Et ils diront à un moment donné, par la bouche de quelqu'un qu'on connaît bien, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et quand on ne fait pas les exploits, et que le Seigneur est quand même avec nous. Parce que le Seigneur est aussi avec ceux qui ne font pas d'exploits. En tous les cas, c'est un peu le cas de nos églises en France. Hein. Dur, dur. Hein. Et c'est de toutes les églises occidentales. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors bien sûr, cette phrase, elle est extraordinaire, elle est formidable. Nous l'aimons et nous la chantons. Hein, dans notre petit cœur. Quand nous abordons le Nouveau Testament, la question de la puissance reste la même. Et je dirais que c'est même davantage. Puisque je vous dis que... L'introduction à l'évangile, ça pourrait être cela. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et on ne va pas dire le contraire. C'est ce qui nous fait vivre. Cette puissance de l'évangile s'étend autant sur les vivants que sur les morts. Puisque là, on touche du doigt la possibilité de la résurrection. Le fils de la veuve de Nain, Lazare, et puis Dorcas, et puis d'autres. Allez, prenez compte. Sur les vivants et sur les morts. Ça existait déjà un petit peu dans l'Ancien Testament, mais alors là, c'est encore une autre chose. Cette puissance de l'Évangile s'étend sur la nature comme sur le monde invisible. La tempête qui est calmée, les démons qui sont chassés, je pense à Gadara par exemple. Dans l'Évangile, Dieu apporte la preuve éclatante qu'il est puissant, et ça tombe du ciel comme une pluie diluvienne. Les pages de l'Évangile sont là pour nous le rappeler. L'impossible humain fond comme neige au soleil. C'est merveilleux l'évangile. C'est formidable. Avec Jésus, le pouvoir divin est descendu sur terre. Ce n'est pas un phénomène exceptionnel, mais c'est au quotidien. Puisque Jésus nous laisse en testament, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc si lui est avec lui, lui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, donc il est avec ceux qui croient en lui et qui lui obéissent. Et le miracle et le surnaturel est avec nous tous les jours, mes frères et sœurs. Tant que cette puissance elle reste, écoutez bien, tant que cette puissance reste entre les mains de Jésus. Elle reste entre les mains de Jésus parce qu'il est saint, parce qu'il est juste. Et tout s'oriente à ce moment-là vers le bien, vers le salut de l'humanité, vers la délivrance de l'homme. Par la puissance, le Fils glorifie le Père. C'est dans Jean, ça, chapitre 17. Par sa puissance, le Fils glorifie le Père. Après la Pentecôte, Dieu va prendre des risques avec nous. Je dis bien des risques, mais quand Dieu prend des risques, il sait ce qu'il fait. Il avait déjà pris des risques avec Job. Il prend des risques avec son Église. Il prend des risques avec chacun d'entre nous. Il prend des risques avec sa créature. Il va lui déléguer l'arme stratégique. C'est le mot que nous employons aussi militairement aujourd'hui, l'arme stratégique. Et quelle est cette arme stratégique? Dans Actes chapitre 1er, après avoir dit à ses disciples d'attendre, voici ce que Jésus va dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça c'est formidable, vous rendez compte? Et ce qui a été promis a été donné et a été reçu. La difficulté n'est pas dans la réception, c'est-à-dire le don, mais dans le bon emploi et dans la gérance de cette puissance d'en haut. Il y a un auteur que j'aime bien, il s'appelle Donald G. Vous avez peut-être entendu, hein? Il est mort il y a une quarantaine d'années. Il a écrit des livres formidables sur le Saint-Esprit. Et il a été appelé l'apôtre de l'équilibre. Et comme Paul a écrit sur les dons spirituels dans 1 Corinthiens, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, c'est tout un enseignement théologique et pratique, mais il prend bien soin de mettre le chapitre 13 entre le 12 et le 14, ça c'est pas difficile à comprendre, mais le chapitre 13, c'est le fruit, le don qui fonctionne avec le fruit. Le fruit, jamais sans le don, jamais sans le fruit. C'est l'équilibre. Et tout est là. Parce que avoir de la puissance, manifester les dons, c'est exaltant, mes frères et sœurs. On peut sauter au plafond. Et là, il suffit qu'il y ait quelque chose de surnaturel au milieu de nous, vous allez voir comment on va chanter le dernier cantique avant de quitter le culte. Hein. Ah ben oui! Mais la foi, c'est aussi de chanter avec la même ferveur, même s'il n'y a pas de manifestation spirituelle et céleste au milieu de nous. Je vous refroidis. Ça fait du bien, hein, par le temps qu'il fait. Mais ce n'est pas pour vous refroidir. C'est pour que nous arrivions à acquérir un sain équilibre, comme Jésus l'avait. Quand Jésus faisait des miracles, vous savez ce qu'il disait? N'allez le dire à personne. Eh oui. Ne le dites pas à personne. Ne le dites à personne. Vous recevrez donc une puissance survenant sur vous. L'homme va-t-il en perdre la tête? Toute la question est là. C'est pour ça que nous avons des sectes, même dans nos milieux. Des gens qui, avec le Saint-Esprit, avec la manifestation du miracle, du surnaturel, du spectaculaire, sont partis dans toutes sortes de dérives doctrinales qui n'ont plus rien à voir avec la volonté de Dieu, et qui vous avez compris, qui fait perdre à l'Évangile son crédit. Très bien, parce que les gens ne sont pas fous. Hein. On ne marche pas encore sur la tête. Alors, est-ce que l'Église va perdre la tête comme Simon le magicien? Quand il a faim de s'être converti, s'est fait baptiser, et il y avait une chose qui l'intéressait. Il a dit, moi je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui est un ancien magicien, qui est toujours encore magicien, dans les apparences il semble chrétien, mais qui quelque part veut être revêtu de la puissance d'en haut, eh bien il restera toujours magicien, il restera toujours occultiste, et il a perdu la tête. Il a perdu la tête cet homme. Hein, dans Actes chapitre 7 ou 8, 8 peut-être. C'est comme Jean qui avait vu tant de miracles faire par son maître Jésus. Un jour, il n'était pas content, Jean, parce qu'il devait trouver un hébergement pour Jésus dans un village. Et c'était un village de Samaritains. Et là, il n'était pas très heureux, parce que les Samaritains avaient dit « Non, on ne recevra pas les Juifs, on ne recevra pas Jésus. » Et Jean était voir Jésus en disant « Écoute, hein, toi tu as le pouvoir, hein. Tu sais ce que tu fais ? Tu leur envoies le Saint-Esprit avec des flammes de feu. » Non, ce n'est pas tout à fait ça. Hein. Non, non. Tu envoies le feu du ciel et tu les consumes, comme ça on sera tranquille. On aura toutes les maisons et tout le village pour nous. Hein. Eh bien voilà, ce genre de choses, cet état d'esprit, c'est un esprit de supériorité. Mais ce n'est pas un esprit qui glorifie le Seigneur en tous les cas. Je finis. Pourtant, cette puissance a donné à l'Église primitive impulsion et dynamisme en dépit des pires épreuves, des pires tribulations et des pires persécutions. Et aujourd'hui dans le monde, nous pouvons dire qu'il y a des frères et des sœurs qui vivent les écluses des cieux ouvertes. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer ce qu'ils sont en train de vivre ? L'emprisonnement, la privation de notre liberté, la spoliation de nos biens, etc., etc. Ah oui, on dit « Seigneur, envoie ta puissance », mais on ne veut rien donner en retour, nous. On ne veut rien faire. On dit « Seigneur, tu donnes, nous on reçoit, c'est très bien, mais nous on reste tranquille. » Non, parce que ça va ensemble, et on le verra la fois prochaine. On en parlera. Donc, attention, il faut remarquer que le succès et tribulation vont ensemble, car il n'y a rien de pire que la puissance sans limite et incontrôlée. Pour tomber dans la convoitise, la suffisance et l'orgueil. Ça sera notre prochain sujet, un de ces dimanches. On verra ça. Et une autre fois, Dieu voulant. Mais je pense que c'est quand même une réflexion qui est intéressante, qui, moi je l'avais à cœur cette semaine, parce que je me dis, Seigneur, eh bien, tu veux que ton Église soit sainte. Tu veux que ton Église marche avec toi. Mais on doit marcher dans le caractère de celui qui nous a appelés à être notre Seigneur et notre Sauveur, et lui en tous les cas, il faut lui ressembler par l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire avoir son tempérament, son caractère, parce qu'autrement, eh bien, Dieu ne peut rien faire. Et je crois que tant que l'Église de Jésus-Christ restera dans l'humilité, restera petite à ses propres yeux, eh bien Dieu s'en servira. Quand elle commence à dire « Nous sommes les meilleurs », alors à ce moment-là, et que le monde viendra vous dire « Mais vous êtes une communauté formidable », eh bien méfiez-vous, parce que quand les hommes diront des bonnes choses, croyez bien que ça ira mal. Hein. Parce que si nous avons besoin d'une louange et d'une approbation, c'est celle d'en haut et pas celle d'en bas. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce et que Dieu nous garde dans l'humilité de cœur. Nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Je demandais à Denis, si tu veux bien terminer ce message et que Dieu nous imprègne de son esprit, parce que ce n'est ni par la puissance, ni par ma force, mais par mon esprit. Merci.